Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, bon réveil et belle matinée, c'est vendredi. On est ensemble jusqu'à 9h, vendredi 6 février 2026. C'est bientôt le week-end et surtout... C'est parti. Et c'est l'événement qu'on attend tous les 4 ans. Début ce soir des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, RMC, radio officielle de la compétition. Vous ne manquerez rien. Aucune médaille française en écoutant RMC, nos journalistes, nos envoyés spéciaux, les meilleurs consultants, tous les moments forts de ces JO, eh bien, ils seront à vivre sur RMC. Cérémonie d'ouverture à 20h. Dans 10 minutes, nous serons en direct avec l'une de nos envoyés spéciaux sur place, avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Julien Richard, avec la triple médaillée olympique, consultante RMC, biathlon, Anaïs Chevalier-Boucher, la France qui va faire une razzia de médailles, notamment en biathlon. Voilà ce qu'ils nous diront. Ils nous diront quoi regarder, écouter, attendre. Et ce sera à 7h10. Et vous, est-ce que ces jeux vous font rêver? Et allez-vous les suivre, bien sûr. Venez nous raconter au 3216 et sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Dans un instant, le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo, Géraldine. Il est 6h59 et il y a déjà de grosses vagues en Méditerranée et des risques de crues dans l'Ouest.
Exactement, ça va encore être une journée très agitée et on se méfie avec ces vigilances orange pour les vagues submersion sur la Corse du Sud, sur les Alpes-Maritimes. Ça, c'est jusqu'à midi. Et puis les vigilances crues qui restent d'actualité pour la Gironde et pour le Finistère. Donc agité encore avec donc beaucoup de vent ce matin sur la Corse en particulier. Sur les deux tiers nord, on va avoir de la pluie. Puis une fois que la pluie sera passée, on va avoir des averses, parfois orageuses avec beaucoup de vent. On va quand même retrouver du soleil dans le sud entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Et puis on garde toujours des températures bien au-dessus des normales de saison. On est 6 à 8 degrés au-dessus des normales ce matin. Cet après-midi, il fera 11 à 13 degrés pour la moitié nord et on pourra aller jusqu'à 17 degrés dans le sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Bon réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Éclaboussé par l'affaire Epstein, Jacques Lang, convoqué par le ministère des Affaires étrangères à la demande d'Emmanuel Macron, inquiet de possibles répercussions sur l'Institut du monde arabe présidé par l'ancien ministre. Les jeux vidéo violents dans le viseur justement d'Emmanuel Macron, le chef de l'État va demander à une commission scientifique de se pencher sur l'impact de ces jeux sur la santé mentale des plus jeunes et n'exclut pas de les interdire. Et c'est parti pour deux semaines de glisse. Les jeux d'hiver de Milan Cortina débute ce soir sur RMC, radio officielle de la compétition.
L'étau se resserre ce matin autour de Jack Lang.
Cité à plus de 670 reprises dans les nouveaux documents de l'affaire Epstein révélés la semaine dernière, le président de l'Institut du Monde Arabe, poussé vers la sortie, va devoir s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel américain à la demande de l'Élysée. L'ancien ministre est donc convoqué, Romain Cluzel, par le Quai d'Orsay.
Une convocation devant le ministère des Affaires étrangères parce que l'Institut du monde arabe présidé par Jack Lang est sous la tutelle de ce ministère. Et cette convocation, elle se fait à la demande expresse d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'entourage du président de la République appelle Jack Lang à penser à l'institution, une manière pour l'Élysée de pousser l'ancien ministre de la Culture à quitter ses fonctions. Les appels plus directs à sa démission se multiplient ces dernières heures au sein de la classe politique après les révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Des liens financiers avec le prédateur sexuel américain mort en prison en 2019. Jusqu'ici, Jack Lang exclut de démissionner et évoque sa naïveté face au profil de Jeffrey Epstein.
Nouvel épisode dans le dossier Betaram avec la mise en examen, la deuxième dans ce dossier, d'un ecclésiastique d'une soixantaine d'années soupçonné de viol sur un élève au début des années 90. Ce dernier a porté plainte pour des faits qui ne sont pas prescrits. Après les réseaux sociaux, Emmanuel Macron veut s'attaquer aux jeux vidéo. C'est la nouvelle piste du chef de l'État qui élargit son spectre contre les dérives du numérique. Dans une interview aux médias bruts, Emmanuel Macron ouvre la porte à une possible interdiction aux plus jeunes.
Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents, qui conditionnent à la violence, qui créent une excitation, une dépendance, où on a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui parfois vont pas dormir, donc on a des troubles du sommeil et autres. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire.
Un conseil d'experts va donc être saisi du sujet dans les mois à venir, mais vous allez l'entendre, les professionnels de la santé mentale, Lou Garnier, ne sont pas forcément convaincus d'une telle mesure.
Fuck Armes de guerre, combats sanglants, dans de nombreux jeux vidéo, la violence est omniprésente. De quoi transformer le comportement de certains jeunes joueurs, selon Lise Barthélémy, elle est pédopsychiatre.
Ils sont confrontés à un univers virtuel où ils sont dans la destruction. Pour eux, un niveau de violence important, c'est banal. Et donc, si à leur tour, ils ont à des moments de difficulté, d'excitation, de débordement, besoin d'être violents, ils vont pouvoir l'être de façon absolument extrême.
Si elle reconnaît que certains jeux violents ne sont pas adaptés à tous les âges, Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les pratiques numériques, estime au contraire qu'ils peuvent canaliser une certaine forme de violence.
Le jeu vidéo de tout type peut avoir un effet défouloir, cathartique.
Et en cas de violence, ce ne sont pas les jeux vidéo le problème, mais des pathologies non diagnostiquées chez les joueurs, selon elle.
Au départ, il y a un trouble, et il se trouve que le trouble, on n'a pas réussi à le voir au quotidien, ni à l'école, ni dans la famille, et qu'à travers le jeu vidéo, d'un coup, la pathologie se voit.
Elle appelle au respect de la signalétique PEGI qui recommande l'âge à partir duquel un jeu est conseillé.
Première nuit en prison pour l'adolescent de 14 ans qui a poignardé sa professeure d'art plastique à Sanary. Il a été placé en détention provisoire hier après sa mise en examen pour tentative d'assassinat. L'enseignante se trouvait toujours dans un état préoccupant hier soir. Et puis ne manquez pas dans le journal de 7h30 le témoignage RMC d'un père de famille. Il est intervenu vendredi dernier pour mettre fin au calvaire d'une jeune fille tabassée à terre devant son collège de Saint-Genis-Laval près de Lyon. Les deux adolescentes de 14 ans mises en cause dans cette affaire ont été interpellées et placées en garde à vue hier. Il est 7h05, vous écoutez RMC. L'Iran appelle au respect mutuel ce matin avant l'ouverture des négociations de la dernière chance entre Washington et Téhéran à Oman. Discussion bilatérale après plusieurs semaines de tensions entre les deux capitales qui semblent désormais privilégier la voie diplomatique. Il reste pourtant quelques points de désaccord, Inès Zegloul.
Loin d'être aligné, ne serait-ce que sur l'ordre du jour de ces négociations. Téhéran s'est montré de son côté très clair, ce sera le nucléaire et rien d'autre que le nucléaire. Mais des garanties sur les stocks et l'enrichissement de leur uranium ne suffiront pas, répètent les Américains. Pour que ces pourparlers aboutissent, disent-ils, eh bien il va falloir aborder plusieurs sujets. La répression orchestrée par Téhéran sur son territoire, son soutien à certains groupes armés de la région, mais aussi son programme balistique. Autant de lignes rouges pour la République islamique qui ne semble pas prête à flancher, souligne Thierry Coville, chercheur spécialiste de l'Iran. Et ce, malgré le déploiement de l'armada américaine dans la région et la menace de bombardement que Donald Trump laisse planer.
Il essaye de faire peur, de déstabiliser pour arriver à ses fins. Donc pour l'instant, on peut dire que ça fait partie de sa stratégie de négociation.
Un accord ou la guerre, semble dire la Maison Blanche. Nous disposons de nombreuses autres options que la diplomatie, rappelait hier encore Washington.
Et puis du nouveau, ce matin au Groenland, où la France et le Canada ouvrent leur consulat en opposition au projet américain de prendre le contrôle de ce territoire autonome danois. Carton plein pour le 15 de France, étincelant face à l'Irlande. Hier soir, en ouverture du tournoi Destination, la France confirme son statut de favori. Victoire 36-14 avec en prime le point de bonus offensif, grâce notamment aux deux essais de l'incontournable Louis Biel-Biarré, très en forme hier soir.
Ça faisait quelques années qu'on démarrait le tournoi de manière un petit peu mitigée. Donc là, on est content d'avoir gagné avec le bonus et avec la manière. Même si on a ce petit trou d'air de 15-20 minutes en seconde mi-temps qui nous rappelle à la réalité, qui est que lorsqu'on est de nouveau indiscipliné, on a quelques mots qui reviennent. Oui, je pense qu'on a tous pris du plaisir, que ce soit en attaque mais aussi en défense. On a fait une grosse partie en défense. Mais sinon, je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir, que ce soit dans le jeu, on a réussi à faire des belles actions, faire des beaux lancements. Donc je pense que si c'est ça qui appelle la flamme, je pense qu'on l'a retrouvé.
Et on retrouvera le 15 de France la semaine prochaine en terre galloise. Ce sera à vivre sur RMC. En attendant, c'est l'autre événement que vous allez vivre sur notre antenne RMC Radio Officielle, des Jeux Olympiques d'hiver de Milan, Cortina, en Italie, dès ce soir, avec Christophe Cessieux pour la cérémonie d'ouverture, ou plutôt les cérémonies d'ouverture, Morgane Maury.
Ces Jeux Olympiques d'hiver sont éclatés entre Milan et les montagnes du Nord et du Nord-Est. La cérémonie, ce sera des cérémonies parallèles, le biathlète Émilien Jacquelin.
Ouais, c'est triste ça aussi, hein. Mais je pense que ça fait partie des jeux du futur où les sites seront un peu plus éclatés et c'est peut-être quelque chose qu'il faut accepter.
Des défilés à Milan, Cortina, Predazzo, la snowboardeuse Chloé Trespeuge va porter le drapeau de la délégation française à Livigno. Derrière elle, les skieurs masculins basés à Bormio feront le court voyage pour l'accompagner comme Clément Noël, l'autre porte-drapeau.
Très content de partager ce moment avec tous les athlètes du site de Livigno et ceux de Bormio qui vont venir, avec Clément Noël, mon collègue porte-drapeau. Donc ça va être trop chouette, j'ai hâte de vivre ça.
Le biathlète Quentin Fillon-Maillet rêvait d'être porte-drapeau. La proximité de sa première course et la distance avec Cortina l'ont empêché de candidater. Pour ses premiers JO, son partenaire Oscar Lombardo défilera.
Justement, de voir un petit peu aussi le cycle en France, parce que au final, nous, on est tout seul ici. Hein. Donc autant en profiter au moins une fois dans ma vie.
Des JO éclatés, une tendance qui va se poursuivre pour les prochains Jeux Olympiques 2030 en France.
Et justement, ces Jeux Olympiques dont vous parliez à l'instant, Thibaut, coup d'envoi ce soir, 20h, des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Ça se passe sur RMC, radio officielle de ces JO, ski alpin, biathlon, snowboard, patinage artistique évidemment, ou encore hockey sur glace. Vous ne manquerez rien de la compétition sur notre antenne. Et notamment grâce à vous, Julien Richard. Bonjour Julien.
Pauline.
Journaliste RMC Sport, et vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place en Italie pour couvrir l'ouverture ce soir et puis les JO derrière. À vos côtés, il y a Anaïs Chevalier-Boucher qui est triple médaillée olympique de biathlon, consultante RMC pour ces Jeux. La France, elle peut battre son record de médailles. C'est votre parti pris à tous les deux dans un instant. Vous allez nous donner vraiment toutes les clés pour nous accompagner dans ces JO. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, est-ce que vous allez vous passionner pour la compétition? Qu'est-ce que vous attendez en particulier? Quelles épreuves? Dites-nous au 32-16 ou sur le WhatsApp de l'émission 06-12-424-424. A tout de suite, 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC et RMC Story. L'événement ce soir sur RMC, cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Milan-Cortina. Il y aura 2900 athlètes, 116 épreuves, 16 disciplines. Et vous ne raterez rien de la compétition sur RMC puisqu'on est la radio officielle des JO en Italie, qu'on va suivre avec vous, Julien Richard, journaliste RMC Sport. Bonjour Julien. Et à vos côtés, Anaïs Chevalier-Boucher, consultante RMC pour ces JO d'hiver, triple médaillée olympique de biathlon. Vous nous le dites tous les deux ce matin, c'est la France, elle peut réagir, elle peut réussir ses très très grands jeux, elle peut même battre ses records, y compris en biathlon, Julien.
Oui, sachant que il y a 4 ans, le biathlon avait rapporté quand même la moitié des 14 médailles de l'ensemble de la délégation française, notamment les 2 médailles d'argent d'Anaïs qui est juste à mes côtés. Et puis cette équipe de France, Anaïs, elle est tout simplement amenée par ce qui se fait mieux cette saison sur le biathlon. Les deux leaders, les deux numéros 1 mondiaux, Éric Perrault et Lou Jean Monod.
Oui, les deux néo-olympiens qui ont vraiment des profils similaires. C'est leurs premiers Jeux Olympiques, ils sont leaders de la Coupe du Monde, ils ont des statistiques de tir qui sont excellentes. Il y a vraiment de grandes chances de médailles pour eux. La petite subtilité, c'est que Lou et Eric, ce sont leurs premiers Jeux Olympiques, ils connaissent pas l'événement, mais voilà, on a beaucoup d'espoir en eux parce que c'est déjà des grands champions.
Et vous avez entendu derrière, Apolline, peut-être les loups, ça c'est le chant de ralliement des supporters français. Vous allez pouvoir l'apprendre et le chanter, certainement, tout le monde l'espère.
C'est ce que j'allais dire, c'est que ça y est, on va s'y habituer à ce loup. Alors donc, on a nos
deux... C'est pas compliqué à apprendre et à retenir, c'est ça l'avantage.
Je l'ai, Julien. On a nos deux têtes d'affiche du biathlon, mais on a aussi d'autres chances de médailles dans la discipline, Anaïs.
Oui, clairement, on a une chance de médaille sur chaque course, voire plus. On peut rêver. Les Français, ils ont été vraiment dominateurs sur le début de la Coupe du Monde cette saison. Après, c'est des Jeux Olympiques. Tout le monde sera prêt, mais je pense qu'il faut vraiment avoir espoir en eux. Ils sont préparés pour. Et ils sont tous déjà presque médaillés mondiaux ou olympiques. Donc voilà, on a Quentin Fillon-Maillet qui a quand même 5 médailles olympique aux derniers Jeux Olympiques. On a Émilien Jacquelin qui est double champion du monde, Justine Vrezès-Boucher qui a une médaille olympique, Julia Simon qui a 10 titres de championne du monde. Donc on va pouvoir faire nos choix.
Et alors, si on élargit au-delà du biathlon, quels seront d'abord les temps forts de l'équipe de France, Julien?
C'est vrai qu'au-delà du biathlon, il y a les leaders que l'on connaît, comme Clément Noël, qui est déjà champion olympique du slalom, qui pourrait réaliser quelque chose que personne, aucun skieur alpin n'a jamais fait, conserver son titre olympique. On a la danse sur glace avec Guillaume Cizeron, qui était champion olympique il y a 4 ans avec Gabriela Papadakis. Alors cette fois, il est avec Laurence Fournier-Baudry et il va tenter là encore de gagner à nouveau un titre olympique. Et puis il y a la France qui pourrait briller dans pas mal de disciplines. On pense au snowboard cross, le patinage de vitesse, le ski freestyle. Il y a des noms que vous allez peut-être découvrir et des disciplines comme Timothée Loubineau qui a été cette saison en forme et qui a notamment battu le record du monde en patinage de vitesse, donc en longue piste. Et puis il y a des petits nouveaux, le ski alpinisme, ça fait son apparition aux Jeux Olympiques. Vous allez voir, c'est ultra spectaculaire, c'est du ski où on monte dans un premier temps avec des pots de phoque sous les skis très vite, c'est extrêmement cardio, et puis derrière il faut redescendre, donc c'est extrêmement spectaculaire. Et la France est au sommet puisque vous allez retenir ces noms: Émilie Arop, Thibaut Anselmé, qui sont favoris pour l'or olympique sur ces nouvelles disciplines.
Extra, et vous savez quoi, depuis ce matin, évidemment, on a des auditeurs qui nous appellent pour nous dire ce qu'ils attendent de ces JO, à quel point ça les fait vibrer. Et alors, il y en a un, on voulait vraiment pouvoir vous donner la parole, c'est Arnaud. Bonjour Arnaud. Arnaud, oui, vous êtes prof de PS à Amiens, et on vous a posé la question à tous, est-ce que vous allez suivre ces JO? Je crois que vous avez une raison particulière de les suivre.
Oui, carrément, ouais. Ben, mon frère va y participer, donc pour la première fois, à 28 ans. Donc c'est quand même une sacrée chance, et toute la famille est super fière de lui.
Bah j'imagine. Alors c'est pas qu'une chance, hein, parce que s'il y est, c'est qu'il a vraiment, il le mérite. C'est exactement. Qui votre frère, Arnaud? Dites-nous.
Alors c'est Antoine Rioux, qui est en équipe de France de bobsleigh.
D'accord.
Il fait partie des pousseurs. Bon, là ils sont quatre. Et il va participer pour la première fois, donc franchement c'est super.
C'est génial. Donc ce soir vous serez où pour regarder la cérémonie d'ouverture, vous?
Alors je serai chez moi avec ma famille, je vais regarder à la télé. Ouais. Ça fait un petit peu loin, puis avec le travail là c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas on va être devant la télé, on va le supporter, et puis voilà, en espérant qu'il fasse. Alors l'objectif ça serait pour eux de faire déjà un top 10, ça serait déjà top.
Ok, et ben vous savez quoi, comme c'est la famille RMC, on va le suivre aussi, lui en particulier. Franchement, c'est extra. Merci à Arnaud d'avoir aussi partagé avec nous cet enthousiasme familial. Bah oui, les JO, c'est aussi derrière des équipes, des familles. Julien et Anaïs, dites-nous aussi ce que vous attendez de la cérémonie ce soir, à quoi il faut s'attendre, en particulier nous.
Alors on sera assez loin du grand défilé sur la scène des Jeux de Paris, hein, mais à l'image de ces Jeux finalement qui ont des sites éclatés, ce sera une cérémonie éclatée avec deux vasques olympiques, c'est une nouveauté, une au Stade San Siro à Milan et puis une autre à Cortina, donc dans les Dolomites. Il y aura des défilés d'athlètes à Livigno également et Predazzo. Avec des stars, hein, toujours dans les cérémonies d'ouverture, l'esprit italien, Laura Pozzini, Andrea Botticelli, Cecilia Bartoli, mais aussi le pianiste Lang Lang, ou encore la méga star américaine Mariah Carey. N'y voyez aucun lien, Apolline, mais la pluie est annoncée au rendez-vous ce soir. Ça sera peut-être le seul
point commun. Ah, la petite déception, ouais, le petit bémol.
Petit point oui. commun avec la cérémonie des Jeux de Paris.
Finalement, on l'a fait, hein. On l'a fait cette cérémonie sous une pluie battante. Merci Julien Richard et Anaïs Chevalier-Boucher. Vous serez vraiment nos voix aussi, et c'est vous qui allez nous accompagner en particulier tout au long de ces JO, ces Jeux Olympiques d'hiver. Ils sont à suivre sur RMC, radio officielle de la compétition. Les médailles françaises, les moments importants, vous ne raterez rien de ces JO. En écoutant RMC, c'est un grand, grand plaisir que ça s'ouvre ce soir. Il est 7h19, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur avec vous comme chaque matin, on va remonter le temps et on va s'intéresser à Jeffrey Epstein, dont les mails sont au cœur de l'actualité.
Mais oui, comment un prof de maths raté est devenu le proxénète des grands puissants? Même mort, Epstein fait aujourd'hui trembler l'élite du monde entier.
Vous nous le dites dans un instant, il y a Arnaud Demange qui va venir aussi pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans une minute sur RMC, il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et on remonte le temps avec Arthur Chevalier comme chaque matin. Arthur, le dossier Jeffrey Epstein fait trembler la planète, de Donald Trump à Bill Clinton, en passant par Bill Gates et Woody Allen, des personnalités de tous les horizons, de tous les pays qui apparaissent dans les documents publiés par la justice américaine, et des Français aussi qui sont cités. Hein.
Et oui, et commencer par l'ancien ministre Jack Lang, hein, qui connaissait bien Jeffrey Epstein. Les appels à la démission de son poste de président de l'Institut du Monde Arabe se multiplient. On a appris hier que cette figure de gauche est aujourd'hui convoquée par le ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur ses liens avec le prédateur sexuel. Pour l'instant, il exclut de démissionner.
Alors, avec vous, Arthur, on va prendre aussi le temps de comprendre qui était-il, ce Jeffrey Epstein?
Mais oui, au début, c'était pas grand-chose. Il est né en 1953 dans une famille modeste de New York, à Brooklyn. Il rate ses études avant de devenir prof de maths dans une école pour gosses de riches. Grâce à son bagou et à sa tchatche, il parvient à devenir banquier à Wall Street, mais sa carrière d'arnaqueur va commencer très vite. Hein. On découvre tout de suite qu'il avait menti sur ses diplômes et qu'il falsifiait ses notes de frais pour payer des bijoux et des robes à ses maîtresses. C'était le début.
Comment il fait une telle fortune?
Alors d'abord en arnaquant des riches avec des investissements complètement bidons, mais une rencontre va changer sa vie. Cette rencontre, c'est avec Les Wexner. Alors, qui est Les Wexner? C'est un milliardaire, propriétaire entre autres de la marque Victoria's Secret. Epstein lui fait un numéro de charme, ça fonctionne. Wexner le prend comme conseiller et Epstein ne va pas se gêner. Hein. Il va littéralement piocher dans la fortune de son bienfaiteur. Voyage, jet privé, villa, il ne se refuse rien. Il achète d'ailleurs une propriété à Palm Beach, la ville de Donald Trump. C'est là-bas que Trump et Epstein vont devenir amis. Et c'est à cette époque qu'Epstein commence à forcer des mineurs à se prostituer.
Il va bâtir un réseau de relations tentaculaires.
Oui, Apolline, pour comprendre Epstein, il faut comprendre que cet homme avait un pouvoir de séduction absolument délirant. Hein. Il savait parler de tout, il savait parler d'argent, il savait parler d'art, il savait faire la fête et surtout organiser des fêtes. En 1998, il achète une île privée dans les Caraïbes, une île où il invitait la terre entière. Il y avait de la drogue, de l'alcool et bien sûr des mineurs, là encore, qui se prostituaient. Epstein devient le proxénète des puissants.
Sa mort est, elle aussi, entourée soi-disant de mystères.
Oui, oui, en 2019, Epstein est accusé de trafic sexuel en bande organisée de mineurs. Le FBI l'arrête un mois après son incarcération. Il est retrouvé pendu dans sa cellule. C'est justement cette mort qui nourrit les fantasmes. Avait-on intérêt à faire disparaître un homme qui en savait trop? C'est la question que certains se posent.
On a l'impression d'assister au plus gros scandale mondial de ces dernières années.
Eh oui, et c'est le cas. Dans les dossiers Epstein, il y a des emails, des photos compromettantes, des comptes en banque, le tout parsemé de noms de gens très puissants. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous ont participé au trafic sexuel. À ce stade, c'est dur de faire le tri. Mais ça concerne des hommes politiques, des familles royales, des artistes, des milliardaires de tous les pays. L'affaire Epstein, Apolline, c'est une bombe à fragmentation qui touche l'élite du monde entier et nous ne sommes qu'au début.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois l'historien Jean-François Colosimo, auteur de L'Occident, ennemi public numéro 1.
Et oui, Apolline, l'Occident, c'est l'ennemi numéro 1, surtout en janvier. On a abusé après les fêtes, trop de raclette. C'est le moment de faire un régime anti-Occident. Alors Jean-François Colosimo viendra à 8h30 nous présenter ses meilleures recettes détox. Mais non, je déconne, oh là là, on va parler de la guerre. C'est vendredi, c'est fin de semaine, faut se détendre un peu avec des trucs légers. D'ailleurs, j'ai regardé la liste de ses livres à Colosimo, il y a L'Apocalypse russe, République ou barbarie, Aveuglement, religion et guerre. La crucifixion de l'Ukraine. Ce matin, c'est LOL qui ressort hein, dans le face-à-face. Racontez-lui une bonne blague de Melon et Melèche. Mettez un coussin péteur sur son fauteuil. On va rigoler. L'Iran et les États-Unis, hein, c'est le sujet. Ils sont toujours à ça de s'affronter. Aujourd'hui, des pourparlers ont lieu à Oman. Une rencontre États-Unis-Iran. Donald Trump, Ali Khamenei, le date de l'enfer.
Oh là là,
non mais s'il faisait le test de compatibilité à marier au premier regard, je pense qu'il serait en dessous des 80%. Mais j'ai envie de rester optimiste.
Oui.
Je suis sûr que ça va bien se passer, que Trump sera très courtois. Et alors, vous aussi, vous tirez dans les musulmans? Oui, mais uniquement les démocrates. C'est-à-dire, bah, ceux qui contestent le pouvoir, ils aiment pas que je sois le guide suprême. Tu sais que moi aussi, ils refusent de m'appeler le guide suprême. C'est les démocrates, ça. C'est les gauchistes. Toi aussi, tu détestes les démocrates gauchistes. On a tellement plus de points communs que ce que j'imaginais. Oh, Ali. C'est vrai, Donald, on se déchire, mais pourquoi? Ali, qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Oh, un string rose. Je n'en parle jamais à personne. Embrasse-moi.
Oh, quel génie.
Et Jack Lang va sortir de derrière un poteau. Si vous voulez, je peux filmer cette nuit d'amour
pour un documentaire.
Ali, tu sais que j'ai vu Donald à l'œuvre chez Jeffrey Epstein. Tu vas te régaler, mon salaud. Bref, Apolline, le facteur vous dépose votre Colosimo dans une heure. Pensez bien à le récupérer en loge pour pouvoir l'interviewer à 8h30.
Arnaud,
à tout à l'heure.
Que l'on retrouve tout à l'heure également à 8h20 et à tout moment en podcast.
Détendez-vous sur RMC avec Soupe de Com, une école du réseau compétences et développement.
Vous l'entendez, c'est la roue. C'est le retour de la roue RMC. Vendredi prochain, nous serons le vendredi 13 et la roue RMC est de retour jusqu'à 30 000 euros à gagner grâce à la roue RMC. 30 000 euros cash, net d'impôts. Dans quelques jours, donc, sur votre compte en banque. Pour jouer, vous envoyez 13, ça peut être en chiffres ou en lettres. 13 au 7, 32, 16. Attention, vous avez 10 minutes. Il est 7h27. Vous avez 10 minutes pour jouer et pour vous inscrire. 13 au 7, 32, 16. Bonne chance à tous. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis, juste après le journal de 7h30, cette question. Faut-il interdire les jeux vidéo violents? Je vous attends aussi au 32, 16. À tout de suite. 7h29 sur RMC, c'est encore de la pluie, Géraldine.
Et encore des vigilances pour aujourd'hui, avec cette vigilance pour le risque de submersion pour la Corse du Sud et les Alpes-Maritimes jusqu'à midi. Toujours des vigilances crues pour la Gironde et le Finistère. Et oui, on va garder un temps très agité, on a beaucoup de vent encore autour de la Corse ce matin. Sur les deux tiers nord, de la pluie. Une fois que la pluie sera passée, on va avoir des averses avec pas mal de vent. Il y aura parfois aussi quelques éclaircies quand même. Et puis le soleil qui sera bien présent cet après-midi de l'Aquitaine à la Méditerranée. Température en hausse, on est largement au-dessus des normales de saison. 6 à 8 degrés au-dessus ce matin. Cet après-midi, on aura 12 degrés à Paris, Lille, 13 à Brest, Nantes, 14 à Lyon, 15 à Bordeaux, Marseille. Et on ira jusqu'à 17 pour Biarritz ou Perpignan.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans l'affaire Betaram avec une deuxième personne mise en examen pour viol, un des rares cas pour lesquels les faits ne sont pas encore prescrits. Un témoignage RMC exclusif ce matin, celui du père de famille qui a mis fin au passage à tabac d'une jeune collégienne à Saint-Genis-Laval près de Lyon. Il raconte le déchaînement de violence auquel il a assisté. Et puis Fabien Galthié a bien fait de sélectionner Mathieu Jalibert. Le numéro 10 a surperformé hier pour son retour en bleu face à l'Irlande en ouverture du tournoi des Six Nations.
L'affaire Betaram prend un nouveau tournant ce matin.
Avec la mise en examen pour viol d'un deuxième membre de l'établissement catholique, le parquet de Pau l'a annoncé hier soir, et cette fois ça n'est pas un surveillant mais un ecclésiastique d'une soixantaine d'années qui est visé, un homme qui n'avait jamais été entendu par les enquêteurs jusqu'à cette nouvelle plainte, Constance Bostoen.
Oui, un ancien élève de Betaram a porté plainte pour des faits qui ne sont pas prescrits. Selon le procureur de Pau, il dénonce un viol commis par un ecclésiastique entre 1993 et 1996, alors qu'il est scolarisé dans l'établissement. Le prêtre, qui n'avait jamais été entendu depuis le début de la procédure, conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans cette affaire, 250 anciens élèves ont déjà porté plainte et jusque-là, seul un ancien surveillant avait été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Cela confirme l'intuition de départ de l'existence d'un réseau pédocriminel, réagit auprès d'RMC Alain Esquer. Le porte-parole du collectif des victimes de Betaram se félicite de cette nouvelle avancée et il exprime son immense reconnaissance à la victime.
Il est 7h32 et on vous en parlait hier sur RMC, l'agression ultra-violente d'une collégienne à Saint-Genis-Laval près de Lyon, agression filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis, la vidéo a été supprimée et deux adolescentes âgées de 14 ans ont été arrêtées et placées en garde à vue. Ce sont elles qui sont soupçonnées d'avoir roué de coups leur camarade à la sortie des cours vendredi dernier. Une scène insoutenable à laquelle ce père de famille a assisté avant d'y mettre fin. Il témoigne ce matin au micro RMC de Philippine Boulet.
Au volant de sa voiture, Marc reconnaît ne pas tout de suite comprendre ce qu'il se passe lorsqu'il aperçoit une adolescente au sol.
Il y a une fille qui s'est approchée d'elle, donc je pensais qu'elle allait l'aider à se relever ou voir ce qui se passait. Et au lieu de ça, elle lui a mis un coup de pied dans la tête. Un coup de pied, deux coups de pied, trois coups de pied, ça s'arrêtait pas.
Il sort de son véhicule.
J'ai dû crier quelque chose du genre « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ?» ou quelque chose comme ça.
Les agresseuses présumées ont 14 ans. Un choc pour ce père de famille.
Cette fille-là qui lui mettait des coups de pied dans la tête au sol, alors qu'elle était déjà en perte de connaissance ou je me suis dit, c'est pas possible, une telle violence.
Pendant qu'une adolescente donne les coups, une autre enregistre la scène.
Je me suis dit, on est vraiment dans les stéréotypes de la violence d'aujourd'hui qui est filmée, qui est mise sur les réseaux. Là, de le voir, je me suis dit, mais en fait, c'est réel et ça peut être aussi dans le collège de mon gamin, quoi.
Marc aimerait maintenant rencontrer les parents de la victime et prendre de ses nouvelles.
À Sanary-sur-Mer, l'enseignante du collège La Guicharde, toujours dans un état préoccupant, et le collégien de 14 ans accusé de l'avoir poignardé, placé en détention provisoire. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a ouvert la porte à une interdiction des jeux vidéo aux mineurs, certains jeux les plus violents, si et seulement si un consensus scientifique émerge des travaux qui seront confiés au Conseil national du numérique au printemps prochain. Il est 7h34 sur RMC et c'est la question ce matin, où est passé l'argent dédié à la réindustrialisation de la France? On a atteint un niveau d'investissement record l'an dernier. Le gouvernement s'en était même félicité là, à l'occasion du sommet de Choose France. Et pourtant, Clara Gabillet, il n'y a jamais eu aussi peu de créations d'usines depuis 2013.
Oui, il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures d'usines en 2025. Des fermetures dans l'automobile, la métallurgie, l'imprimerie, le textile ou encore la fabrication de meubles. La courbe ne s'est jamais redressée pour ces secteurs, selon le cabinet d'analyse économique. Cela concerne particulièrement les PME, mais toutes les tailles d'entreprises sont concernées. L'industrie pharmaceutique est aujourd'hui au point mort. Les rares secteurs qui se portent un peu mieux, l'aéronautique, le traitement des déchets et la production d'énergie, qui ont donné lieu à peine plus de 5000 créations d'emplois l'an dernier. Bilan très sombre, hein, malgré les discours du gouvernement pour impulser une réindustrialisation. La réalité est que les investissements se portent davantage sur le numérique. Sur les 125 milliards d'euros mis sur la table l'an dernier, plus de la moitié concernait ce secteur.
Les précisions de Clara Gabillet pour RMC. Il est 7h35 et eux ne sont pas prêts à lâcher leur couronne du tournoi Destination. Les Bleus du rugby l'ont bien prouvé hier au Stade de France en battant l'Irlande 36-14. Les joueurs de Fabien Galthié qui ont retrouvé leur capitaine Antoine Dupont. Mais c'est surtout Mathieu Jalibert qui a brillé hier soir. Le numéro 10 était très attendu pour son retour en bleu, Julien Landry, et on peut dire qu'il a répondu présent.
Oui, tout le monde attendait de voir si Mathieu Jalibert étincelant avec Bordeaux allait éclairer le jeu des Bleus. Il a parfaitement assuré son rôle après une entame timide. Son essai à la 22e minute l'a libéré. Il ne voulait rien regretter.
Je voulais surtout ne pas avoir de regrets, donner tout ce que j'avais sur le terrain et sortir la tête haute.
Ensuite, il a enchaîné les gestes de classe, comme le petit coup de pied par-dessus pour laisser d'Olivon la passe décisive pour Atisokbe. Son coéquipier Louis Bielbiaré a apprécié sa partition.
Trouvé très bon, très à l'aise. Je suis très content pour lui et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui.
Même en défense, il s'est envoyé dans un secteur où il est scruté. Il termine avec un 11 sur 12 au plaquage, la récompense de son travail.
Là, ça fait maintenant 2 ans que je travaille énormément sur ce secteur et je suis content de voir que ça marche aussi au niveau international.
Un an après sa dernière apparition en équipe de France, il a probablement réalisé son meilleur match sous le maillot bleu, mais lui-même le sait.
Comme je dis, le week-end le plus compliqué, c'est toujours celui d'après, donc il faut continuer sur cette voie.
Et le prochain rendez-vous, c'est au Pays de Galles, dans 9 jours.
Et voilà, ce prochain match, le week-end prochain.
Le Quintet, Élise, 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Killer Rain. L'outsider, c'est le 7, Force of Nature.
C'était le journal d'Élise dans Jean, il est 7h36 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Face à la violence des jeunes, le président de la République veut une étude scientifique.
Il est clair qu'on a des jeux vidéo violent, qui conditionne à la violence. Et maintenant, on va se poser la question, quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire.
Emmanuel Macron était donc hier sur le média Brut. Et Mickaël Stora, vous serez avec nous dans un instant. Vous êtes psychologue, spécialiste des effets du numérique sur les comportements des jeunes. Pour vous, le président fait un peu un raccourci entre jeux vidéo et violence. Tuer n'est pas jouer, voilà ce que vous nous dites. Mais je vous attends aussi, vous tous qui nous écoutez sur RMC, est-ce qu'il faut interdire les jeux violents, les jeux vidéo violents? Je vous attends au 32-16. Dites-nous si vous-même vous êtes joueur ou si vos enfants jouent aux jeux vidéo. Vos témoignages au 32-16 dans un instant. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40, très bon réveil sur RMC et sur RMC Story. Face à la violence des jeunes, retour d'un vieux débat. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Le président de la République demande une étude scientifique pour trancher une bonne fois pour toutes cette question. Mickaël Stora est avec nous. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Ces jeunes qui seraient accros aux jeux vidéo, pointés du doigt également par le président de la République, qui s'interroge sur les liens entre jeux vidéo et violence et qui dit même qu'il faut réfléchir à les interdire. Comment vous réagissez?
Écoutez, premièrement, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne idée qu'on finance des études sur sur une forme de causalité qu'il y aurait entre pratique des jeux vidéo et passage à l'acte violent. Après, il y en a déjà énormément. Il y a des articles qui sont tout à fait bien faits, qui font un peu un état de l'art de cette question-là. Et en général, la plupart du temps, on perçoit plutôt l'inverse. C'est assez étonnant, mais la pratique des jeux vidéo chez des personnes qui vont plutôt bien a tendance à plutôt canaliser les pulsions agressives, et l'étude évoque surtout que si les personnes ont préalablement des problématiques de comportement, pathologique, eh bien oui, malheureusement, les jeux vidéo, mais comme d'autres médiums, peuvent entraîner de la violence.
Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. En gros, vous dites, et tout est dans les personnes qui vont plutôt bien. C'est-à-dire que la question, c'est que la violence ou le comportement déviant préexiste à l'usage des jeux vidéo. Et vous parlez même des jeux vidéo comme d'un médium, c'est-à-dire au fond, presque comme d'une drogue dans ces cas-là.
Alors non, dans le sens où finalement tout objet artistique peut avoir cette forme de vocation qui est celui d'une forme de médiation. Le jeu vidéo en effet a quelque chose de supplémentaire, c'est que l'identification à l'avatar est puissante, c'est une forme d'identification première et que donc à partir de ce moment-là, on voit bien comment la personne va finalement même dans des jeux dits narratifs se réinventer, s'inventer lui-même une propre histoire par rapport à ce qu'on lui propose. Mais il faut bien comprendre qu'à l'inverse de ce que l'on croit, dans un jeu vidéo, il y a des règles. C'est-à-dire qu'au fond, le jeu va résister quelque part à votre destructivité. Et donc, on n'est pas dans un espace d'une violence gratuite.
Il y a des règles et c'est une forme, comme vous dites, presque de catalyseur, parfois. Ce qu'on appelle la catharsis pendant longtemps, même dans le théâtre. L'idée qu'il valait mieux voir la violence sur scène que de la vivre dans son propre quotidien. Mathieu, il y a de nombreux messages.
Oui, alors on a eu beaucoup de gamers, comme on dit, qui nous ont écrit. Mais on a aussi des questions sur l'âge des enfants. Et Mohamed qui nous dit, ce débat sur les jeux, ça existe déjà, les règles, il faut juste que les parents jouent leur rôle, tout simplement. Tous les jeux ne sont pas adaptés à tous les âges.
Avec la question, effectivement, des règles, on va y revenir avec vous, Mickaël Sora, dans un instant, mais je voudrais aussi qu'on accueille le témoignage de Florent. Bonjour Florent.
Bonjour.
Florent, vous êtes boulanger à Montpellier. Vous, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo et est-ce que vous percevez une forme de violence?
Alors, je joue aux jeux vidéo et comme disait votre intervenant juste avant, la violence, elle vient souvent d'avant. Et pour ce qui est des jeux, souvent, les jeux, ils portent des messages et des avis qui sont plutôt contre la violence, même le plus violent, notamment GTA. S'il y en a bien un qui va plus vous pousser à ne pas faire de conneries, c'est celui-là. Parce que jamais rien ne se passe comme vous voulez là-dedans. Du coup, c'est plutôt les
pour vous, GTA, c'est très intéressant parce qu'il y a un peu un fantasme autour de GTA. Ouais, à chaque fois qu'il y a une sortie de nouvelle saison de GTA, on a vraiment l'impression que ça va être de plus en plus violent, que ça va être l'enfer, que ça va être vraiment. Et vous, vous dites, au fond, c'est plutôt l'inverse. Vous, GTA, vous pousserez plutôt à ne pas être violent.
Bah ouais, au contraire, comme disait l'intervenant un peu plus tôt dans la matinée, qui avait parlé de Fortnite ou encore des jeux un peu plus qui peuvent paraître plus innocents comme même Minecraft ou encore Roblox, c'est l'aspect social où vous allez vous croiser et la frustration que vont avoir les joueurs et l'interaction qu'ils vont avoir entre eux qui peut être toxique et qui là ils vont être agressifs, contrairement à des jeux comme justement GTA ou même Call of Duty, quand tu je compte pas le multijoueur par contre, mais en solo.
Au contraire, ouais, c'est très intéressant aussi ce que vous dites sur la question des interactions sociales. Florent, restez avec nous. Je voudrais que Mickaël Sora puisse précisément réagir sur ce point, Mickaël.
Oui, alors on découvre évidemment que dans les jeux en ligne, il y a des socialisations qui peuvent évidemment, dans certains jeux comme Fortnite ou même dans d'autres comme League of Legends, on évoque des communautés parfois toxiques, c'est-à-dire que, oui, il y en a qui n'aiment pas perdre et qui peuvent être finalement... Alors, tout en sachant qu'il y a des garde-fous, parce que souvent, beaucoup de joueurs sont bannis lorsqu'ils dépassent certaines bornes, mais d'une manière globale, on voit même dans certains jeux en ligne qu'on appelle des mondes persistants, des communautés de joueurs très, très, avec une forte adhésion, voire même des relations amicales qui vont se nouer, avec des rencontres après in real life, comme on dit. Donc oui, d'une manière globale, il y a quand même des effets plutôt positifs par rapport, moi,
donc
à des
jeunes. Spontanément, et vous-même, Mickaël Sora, qui avez lu les quelques études qui effectivement existent déjà, vous ne seriez pas pour une interdiction, vous seriez quoi, pour un accompagnement?
Non, moi, je pense que comme pour d'autres décisions, il est important bien sûr d'accompagner, mais en effet, peut-être que c'est intéressant que au sein des familles, les parents puissent s'intéresser un peu plus à certains jeux. Pourquoi pas jouer eux-mêmes avec eux, ce qui existe déjà dans certaines familles, et d'arrêter de faire comme ça, entre autres du jeu vidéo, un objet de transgression et donc de convoitise. Je crois que là, l'interdit me paraît un petit peu excessif, surtout au vu de toutes les études internationales qui ont été menées sur la question de la violence des jeux vidéo.
Et la question, c'est évidemment aussi toujours que les parents ne se désintéressent pas de ce que font leurs enfants, qu'ils mettent le nez dedans, voire même qu'ils jouent avec eux. Je me souviens d'ailleurs une fois de vous avoir reçu, Michael Stora, et vous-même, vous disiez avoir des moments où vous jouiez avec votre fils notamment. Michael Stora, merci. Psychologue, psychanalyste et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et merci à Florent pour son témoignage et sa réaction. Florent Boulanger à Montpellier. Il est 7h46, c'est vendredi. C'est donc l'heure du débat droite-gauche. Ce CDI jeune, proposition du MEDEF cette semaine, a fait beaucoup couler d'encre. À part les patrons, personne ne soutient cette mesure. Et pourtant, le chômage des jeunes reste un vrai problème. Cécile Duflo, Charles Consigny, vous allez en débattre dans un instant. Si pas CDI jeune, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes et quelles solutions? Ça se passe sur RMC et c'est dans un instant. Il est 7h47.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat droite-gauche. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec le retour d'un gros nom du rap français.
Ah, cette intro révélée cette nuit.
Un gros nom, mais c'est un grand nom quand même.
Un grand nom. Ouais, cette intro révélée cette nuit, quelques notes en ambiance tropicale. C'est le nouveau Booba qui a été diffusé cette nuit.
J'ai compté les billets, j'ai compté les années. J'aurais pu sur les carrosseries chromées.
Ça s'appelle Seychelles, ça a été publié donc dans la nuit. Premier extrait d'un nouvel album annoncé pour le printemps, Blanco Nemesis, ce sera son nom. Le duc de Boulogne, comme il se surnomme, revient sur le devant de la scène et sur les réseaux, où il a d'ailleurs répondu, non sans agressivité, à ceux qui l'accusaient d'avoir fabriqué ça à Paris. À Booba, il a de l'actu, puisqu'il vient aussi d'annoncer le retour de sa marque de vêtements, stoppée en 2018. Et il a aussi le sens de la promo, comme lorsqu'il fait coïncider la sortie de cette nouvelle chanson et des tweets chambreurs vis-à-vis des supporters marseillais. À deux jours du match OM-PSG, le nouveau Booba s'appelle Seychelles.
C'est bien renouvelé. Apolline Matin, le débat.
Il est 7h49 et c'est l'heure du débat RMC comme tous les vendredis. Nos deux débatteurs, Cécile Duflo, inutile de dire que c'est la voix de gauche. Charles Consigny, inutile de dire que c'est la voix de droite. Cette idée du MEDEF qui a agité la semaine, le mouvement patronal qui proposait un CDI jeune. Alors l'idée, c'était qu'il y ait une possibilité de mettre fin à ce contrat dans les trois premières années. Une rémunération inférieure au SMIC. Et ça devait toucher les jeunes qui sont vraiment les plus éloignés à la fois de l'emploi, des études. Un jeune de moins de 25 ans est sur 5 est au chômage. On fait quoi, Charles ?
On fait quoi ? En tout cas, on s'oppose pas par principe à toute mesure proposée pour essayer de sortir ces jeunes de cette situation. Moi, je suis pas sûr. Je pense que le MEDEF pousse un peu en proposant une rémunération inférieure au SMIC. Faut pas exagérer. Je pense qu'une rémunération au SMIC, c'est déjà pas bien élevé. Donc, ça peut quand même être un seuil qui vaut, y compris pour les jeunes sans diplôme ni emploi.
Parce que c'est ça aussi. Ce seraient les jeunes sans diplôme, sans formation, sans boulot.
Néanmoins, un contrat très souple qui permette de les faire rentrer sur le marché du travail, moi je pense que c'est une idée qui s'examine.
Trouver un contrat plus souple, en tout cas Charles. Cécile, on se souvient des emplois jeunes ?
Oui, on se souvient des emplois jeunes et on se souvient aussi, on sait ce qui fonctionne, notamment les territoires zéro chômeur. Il y a deux problèmes, il y a les jeunes au chômage et puis il y a les gens qui sont au chômage depuis très longtemps et qui ont du mal à retrouver un emploi. Le système des territoires zéro chômeur, ça a bien marché. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un accompagnement très proche, parce que c'est difficile. Je pense qu'avec les jeunes, en fait, ce qui marche, d'ailleurs, ce qui marche en Allemagne, ce qui marche dans d'autres pays, c'est plutôt d'avoir un accompagnement plutôt qu'essayer de les fragiliser encore plus. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être payé moins que le SMIC ? Moins que le SMIC, c'est 1200 euros net. J'ai fait un petit calcul, c'est 5 fois le pull de Charles Consigny. Comment on vit ? Comment on peut se loger ? Comment on peut vivre tout simplement ?
Je ne sais pas comment Cécile Duflo connaît le prix de mon pull, mais bon.
Je révélerai mes sources à la fin de cette émission, mais très sérieusement, ça dit quelque chose. C'est pas inutile de le dire, c'est de dire on peut pas se loger pour ce prix-là, on peut pas se projeter.
Voilà.
Et donc si en plus on est insécurisé dans son contrat, je pense qu'effectivement c'est de la provocation de la part de Patrick Martin, mais que là où c'est vrai, il faut trouver des solutions et il peut en exister. Mais il faut aussi chercher les causes. Qu'est-ce qui se passe en France ? En France, on a le taux de scolarisation des 15-19 ans, un des plus faibles de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de décrocheurs, beaucoup de jeunes qui, à 15 ans, s'éloignent de l'école sans qu'on puisse les rattraper. Et ça prend naissance beaucoup plus tôt. Donc je pense qu'il y a quelque chose à nouer aussi, beaucoup plus tôt, dans la scolarité, pour emmener les jeunes sur un chemin où ils se sentent considérés et où ils ont des perspectives d'avenir.
Charles.
Je pense que tout ça, c'est quand même un peu, une espèce de verbiage pour habiller le fait qu'on est dans un pays où ça devient impossible d'employer quelqu'un, impossible de faire travailler quelqu'un et impossible de rémunérer quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre selon lequel 75% des Français estiment que le travail ne paye plus en France. Ils ont raison. Aujourd'hui, quand vous recrutez quelqu'un en France, il vous demande du télétravail, il se met la semaine après son télétravail en arrêt maladie, il prépare sa saisine des prud'hommes la troisième semaine, vous avez les syndicats dans les pattes dès la deuxième heure, et quand vous lui donnez 100 euros, il lui en reste 10. C'est ça la réalité de la France. Donc comment voulez-vous, dans une situation aussi bloquée, dans un pays qui est aussi ankylosé, et où il y a une telle paranoïa par rapport au travail, comment voulez-vous employer déjà les gens diplômés et qui sont plus ou moins sur le marché de l'emploi? Que voulez-vous qu'il reste pour ceux qui sont sans diplôme et qui sont éloignés du marché de l'emploi? Moi, je pense que les usines à gaz, notamment le territoire zéro chômeur, je me suis farci le rapport du plan sur le sujet il n'y a pas très longtemps, il se trouve que c'est quand même très coûteux pour les finances publiques, ce système.
Ça marche ultra bien.
À un prix très élevé pour les finances publiques. Moi, j'ai regardé un truc simple. J'ai regardé comment ça se passe aux États-Unis. Un pays sans chômage. Hein. J'ai regardé comment ça se passe. Bah, c'est simple. Bah, les gens meurent aussi en France.
L'espérance de vie aux États-Unis réduit.
Ouais, mais c'est mieux. En France, on agonise dans des EHPAD. C'est mieux. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est simple. Tout le monde est au tarif proposé là par le MEDEF en termes de souplesse du contrat de travail. C'est-à-dire que vous êtes engagé très facilement, vous êtes viré très facilement. Quel est le résultat? Un pays sans chômage, un dynamisme économique énorme qui aujourd'hui nous écrase complètement. Donc moi, je pense que on doit s'inspirer de ce qui marche.
Alors, un pays qui va socialement très mal, où l'espérance de vie diminue pour plusieurs raisons. Une épidémie de consommation de psychotropes, des suicides. Non, mais ça, sans commune mesure. Et puis des morts violentes par arme à feu. Par ailleurs, les gens aux États-Unis, effectivement, ils travaillent parfois 3 emplois pour réussir à vivre. Ils n'ont plus de vie. C'est ça le modèle que vous imaginez. Et ça crée un niveau de tension sociale. Donc, attendez, je voudrais reprendre parce qu'avant, il y avait, les gens qui veulent pas travailler ou dès qu'ils sont arrivés, ils sont en arrêt maladie. Et de l'autre côté, en fait, ils espèrent travailler. En vérité, en France, le travail est estimé par les Français. Au-delà de la nécessité de travailler pour avoir un revenu, c'est aussi un statut social, c'est aussi une identité. Donc dire que les Français, et en particulier que les hommes n'aiment pas travailler, c'est faux.
Mais sur ce chiffre, sur les Français qui considèrent que le travail ne paye pas.
Là, c'est vrai, ils ont sans doute raison. Ils ont raison pour une raison assez simple, c'est que depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de resserrer les salaires pour dégager de l'argent, historiquement, théoriquement, au profit des marges et pour améliorer l'investissement. En vérité, et la France a battu le record d'Europe pour distribuer des dividendes. Effectivement, la valeur ajoutée, la valeur créée par le travail, parce que sans travail, il n'y a pas de valeur créée dans les entreprises, elle est revenue beaucoup plus aux actionnaires qu'à ceux qui travaillent. Et c'est un problème. En revanche, le chiffre qu'a donné Charles sur si vous donnez 100, les salariés récupèrent 10, ça, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut se poser la question des critères de fiscalité, de savoir s'il vaut pas mieux fiscaliser autre chose, et notamment s'il vaut pas mieux fiscaliser le patrimoine. D'ailleurs, des syndicats d'entreprises le proposent, d'entrepreneurs, en particulier l'UDP, a proposé des solutions pour faire évoluer la fiscalité des entreprises. Mais on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, vraiment pas sur l'attachement au travail.
D'abord, franchement, en termes de consommation psychotrope, je pense que la France est largement devant les États-Unis, ne serait-ce que parce qu'en France, les antidépresseurs sont gratuits. Ensuite, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a... Quel est le problème en France? C'est qu'il y a des gens qui ont un emploi mais qui sont à peine à 35 heures et qui donc en fait sont dans une espèce de demi-emploi. Vous avez trop de gens qui sont sans emploi au sens qui ne sont pas sur le marché du travail alors qu'ils devraient y être. Des gens soit qui ne travaillent pas, soit qui ne travaillent plus parce qu'ils sont partis à la retraite trop tôt. Et c'est pour payer ces retraites, pour payer ce système social, qu'on se retrouve avec des charges délirantes. Je suis d'accord sur le fait que les actionnaires abusent, réclament trop de dividendes, etc. C'est une partie du problème. Oui, c'est une partie du problème sur les salaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaise foi de ce côté-là. Mais il y a aussi l'incroyable différence dont tous les Français sont conscients entre le brut et le net. Et ça, c'est quand même le grand sujet.
Merci à tous les deux d'avoir débattu ce matin. Charles Consigny, Cécile Duflo, tous les vendredis, c'est le choc droite-gauche et le débat sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h. J'ai pas su pour le pull de Charles, Cécile.
Alors, ce que Cécile ne sait pas, c'est que j'ai des prix à peu près dans toutes les maisons où j'achète des vêtements.
Mais soudain, en regardant Fatih, je me dis que je n'avais pas eu.
Parce qu'il les porte à la télé. Donc, Charles est subventionné par les entreprises de mode. Super. Influenceur mode.
Elle m'appréciait.
Pardon, mais je ne pouvais pas
désolé.
Ne pas finir ce duo de choc avec cette question-là. Dans un instant, le journal de 8h, je vous le disais, 20h ce soir, en Italie, ce sera le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture des JO. Ce sera à suivre sur RMC, évidemment, mais on vous dit tout dès le journal de 8h. Météo, soleil au sud, pluie au nord. Et juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, c'est le retour. Oh, j'ai l'impression que c'est un running gag de ma prime Rénov.
Mais oui, le guichet rouvre. Mais attention, la file d'attente est longue.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.